Burlington, Les derniers jours de Pompéi. Livre 1, chapitre 1er, Les deux élégants de Pompéi. Hé, Diomède, bonne rencontre. Soupez-vous chez Glaucus cette nuit ? Ainsi parlait un jeune homme de petite taille, vêtu d'une tunique aux plis lâches et efféminée, dont l'ampleur témoignait de sa noblesse et non moins que de sa fatuité. « Hélas, mon cher Claudius, il ne m'a pas invité, » répondit Diomède, homme d'une stature avantageuse et d'un âge déjà mûr. « Parpelux, c'est un mauvais tour qu'il me joue, on dit que ses soupçons sont parmi les meilleurs de Pompéi. »« Assurément, oui, quoiqu'il n'y ait jamais assez de vin pour moi, ce n'est pas le vieux sang grec qui coule dans ses veines, car il prétend que le vin lui montera la tête lourde, le lendemain matin. Oh, il doit y avoir une autre raison à cette parcimonie, dit Diomède en relevant les sourcils. Avec toutes ses imaginations et toutes ses extravagances, il n'est pas aussi riche, je suppose, qu'il affecte de l'être. Et peut-être aime-t-il mieux épargner ses amphores que son esprit. Raison de plus pour souber chez lui pendant que les sesterces durent encore. L'année prochaine, nous trouverons un autre Glaucus. J'ai ouï dire qu'il était aussi fort ami des dés. Ami de tous les plaisirs, et puisqu'il se plaît à donner des soupers, nous sommes tous de ses amis. Claudius, voilà qui est bien dit. Avez-vous jamais vu mes celliers par hasard ? « Oh non, je ne pense pas, mon bon Diomède. Alors vous souperez avec moi quelque soir. J'ai des lamproies d'une certaine valeur dans mon réservoir et je prierai l'édile Pansa de se joindre à nous. Oh, pas de cérémonie avec moi. Persicos odia parla tous. Je me contente de peu. Le jour décline, je vais au bain, et vous ? Je vais chez le questeur pour affaire d'état. » Ensuite au temple d'Isis. Allez, va aller. Fastueux, impertinent, mal élevé, murmura Claudius en voyant son compagnon s'éloigner et en se promenant à pas lents. Il croit, en parlant de ses fêtes et de ses celliers, nous empêcher de nous souvenir qu'il est le fils de la franchie. Et nous l'oublierons en effet lorsque nous lui ferons l'honneur de lui gagner son argent au jeu. Ces riches plébéiens sont une moisson pour nous autres nobles dépensiers. » En s'entretenant ainsi avec lui-même, Claudius arriva à la voie domitienne qui était encombrée de passants et de chars de toute espèce et qui déployait cette exubérance de vie et de mouvement qu'on rencontre encore de nos jours dans les rues de Naples. Les clochettes des chars, à mesure qu'ils se croisaient avec rapidité, sonnaient joyeusement aux oreilles de Claudius, dont les sourires et les signes de tête manifestaient une intime connaissance avec les équipages les plus élégants et les plus singuliers. Dans le fait, aucun oisif n'était plus connu à Pompéi. « C'est vous, Claudius ? Comment avez-vous dormi sur votre bonne fortune ?» cria d'une voix plaisante et bien timbrée un jeune homme qui roulait dans un char bizarrement et splendidement orné. On voyait, sculptés en relief sur la surface de bronze, avec l'art toujours exquis de la Grèce, les Jeux olympiques. Les deux chevaux qui traînaient le char étaient de race parthe et de la plus rare. Leur forme délicate semblait dédaigner la terre et aspirer à fendre l'air. Et cependant, à la plus légère impulsion du guide, qui se tenait derrière le jeune maître de l'équipage, ils s'arrêtaient immobiles, comme s'ils étaient subitement transformés en pierre, sans vie, mais ayant l'apparence de la vie, semblable aux merveilles de Praxitèle, qui paraissaient respirer. Leur maître, lui-même, possédait ces belles et gracieuses lignes, dont la symétrie servait de modèle au sculpteur d'Athènes. Son origine grecque se révélait dans ses cheveux dorés, et retombant en boucle ainsi que dans la parfaite harmonie de ses traits. Il ne portait pas la toge qui, du temps des empereurs, avait cessé d'être le signe distinctif des Romains et que ceux qui affichaient des prétentions à la mode regardaient comme ridicule. Mais sa tunique resplendissait des plus riches couleurs de la pourpre de Tyr, et les fibules, les agrafes au moyen desquelles elle était soutenue, étincelaient d'émeraudes. Son cou était entouré d'une chaîne d'or qui descendait en se tordant sur la poitrine et présentait une tête de serpent. De la bouche de ce serpent sortait un anneau en forme de cachet du travail le plus achevé. Les manches de sa tunique étaient larges et garnies aux poignets de franges d'or. Une ceinture brodée de dessins arabes et de même matière que les franges ceignait sa taille et lui servait en guise de poche à retenir son mouchoir, sa bourse, son stylet et ses tablettes. « Mon cher Glaucus, dit Claudius, je me réjouis de voir que votre perte au jeu n'a rien changé à votre façon d'être. En vérité, vous avez l'air d'être inspiré par Apollon. Votre figure est rayonnante de bonheur. On vous prendrait pour le gagnant et moi pour le perdant. » Qu'y a-t-il donc dans le gain ou dans la perte de ces villes pièces de métal qui puissent altérer notre esprit, mon cher Glaudius? Par Vénus, tant que jeunes encore, nous pouvons orner nos cheveux de guirlandes, tant que la cithare réjouit nos oreilles avides de son mélodieux, tant que le sourire de Lydie ou de Chloé précipite dans nos veines notre sang prompt à s'y répandre, nous serons heureux de vivre sous ce brillant soleil, et le mauvais temps lui-même deviendra le trésorier de nos joies. Vous savez que vous soupez avec moi cette nuit. Qui a jamais oublié une invitation du Locus? Mais où allez-vous maintenant? Moi, j'avais le projet de visiter les bains, mais j'ai encore une heure devant moi. Alors, je vais renvoyer mon char et marcher avec vous. « Là, là, mon Phidias, » ajouta-t-il, tandis que sa main caressait le cheval à côté duquel il descendait et qui, hennissant doucement et baissant les oreilles, reconnaissait joyeusement cette courtoisie. « Mon Phidias, c'est un jour de fête pour toi. N'est-ce pas un beau cheval, ami Claudius ?»« Digne de Phébus, » répliqua le noble parasite. Ou digne de Glaucus. Chapitre 2. Les deux jeunes gens, en parlant légèrement de mille choses, se promenèrent dans les rues. Ils se trouvaient dans le quartier rempli des plus attrayantes boutiques, dont l'intérieur ouvert laissait voir le luxe et les harmonieuses couleurs de peinture à fresques incroyablement variées de formes et de dessins. Les fontaines brillantes qui, de toutes parts, lançaient leurs gracieux jets dans l'air pour rafraîchir les ardeurs de l'été, la foule des passants, ou plutôt des promeneurs nonchalants vêtus de leurs robes pourprées, les joyeux groupes rassemblés autour des boutiques qui les séduisaient le plus, les esclaves passant çà et là avec des seaux de bronze d'une forme agréable et qu'ils portaient sur leur tête, les filles de la campagne, s'échelant amenant à peu de distance les unes des autres près de leurs corbeilles de fruits vermeils ou de fleurs plus appréciées des anciens Italiens que de leurs descendants, on dirait que pour ceux-ci, la tête tanguis in herba, que chaque violette ou chaque rose cache un parfum malfaisant. Les divers lieux de repos qui remplissaient pour ce peuple paresseux l'office de nos cafés, de nos clubs, les vases de vin et d'huile rangés sur des tablettes de marbre, les entrées garnies de bancs et de tentures de pourpre qui offraient un abri contre le soleil et invitaient la fatigue ou l'oisiveté à se reposer ou à s'étendre à son aise, tout cela formait une scène pleine d'animation et de gaieté qui donnait à l'esprit athénien de Glaucus raison de se féliciter d'une si heureuse vie. « Ne me parlez plus de Rome, » dit-il à Claudius. « Le plaisir est imposant et pesant dans ces sublimes murailles. Même dans l'enceinte de la cour même, dans la maison dorée de Néron, même au milieu des splendeurs nouvelles du palais de notre Titus, la magnificence est quelque chose de majestueusement ennuyeux, qui fatigue les yeux et l'esprit. En outre, cher Claudius, ne sommes-nous pas mécontents lorsque nous comparons l'énorme faste et la richesse des autres avec la médiocrité de notre fortune? Ici, nous nous livrons facilement au plaisir et nous possédons l'éclat du luxe sans la lassitude qui en accompagne la pompe. Ah, c'est pour ce motif que vous avez choisi votre retraite d'été à Pompéi? Oui, certes, je préfère Pompéi à Bahia. J'apprécie les charmes de Bahia, mais je n'aime pas les pédants qui s'y réunissent et qui semblent peser leur plaisir au poids de la drachme. Cependant, vous aimez aussi le savoir, et quant à la poésie, Homère et Eschyle, le poème et le drame trouvent chez vous un asile éloquent. Oui, mais ces Romains, qui contrefont mes ancêtres d'Athènes, se montrent si lourds en toutes choses. Dans leur chasse même, ils commandent à leurs esclaves d'emporter Platon, et lorsque le sanglier leur a échappé, ils prennent leurs livres et leurs papyrus afin de ne pas perdre leur temps, comme ils ont perdu le sanglier. Lorsqu'un essaim de jeunes filles s'en vient tourbillonner autour d'eux avec toute la grâce des danses persanes, quelques stupides affranchis à la face de marbre leur lit un chapitre du traité de Cicero de Officiis. Ne ressemble-t-il pas à d'ignorants droguistes? Le plaisir et l'étude ne sont pas des éléments faits pour être mêlés ensemble. On doit les employer séparément. Les Romains se privent des deux choses par cette affection raffinée. C'est prouvé qu'ils n'ont de goût ni pour l'une ni pour l'autre. Eh, mon cher Claudius, combien vos compatriotes se rendent peu compte de l'heureuse mobilité d'un Périclès ou des vrais enchantements d'une Aspasie. Ce n'est que l'autre jour que j'ai rendu visite à Pline. Il était assis dans le cabinet de travail de sa maison d'été, écrivant pendant qu'un esclave infortuné jouait de la flûte. Son neveu, fatuité philosophique qui mériterait le fouet, lisait dans Thucydide la description de la peste. Il inclinait de temps en temps sa petite tête pleine de suffisance, en signe d'assentiment à la musique, tandis que ses lèvres répétaient tout bas les répugnants détails de cette terrible peinture. Ce jeune sot ne voit rien d'incompatible entre une chansonnette d'amour et une description de la peste. Oh, c'est quelquefois la même chose, dit Claudius. Mais je lui en fis justement l'observation pour excuser son impertinence. Mais le jeune homme, visage renfrogné, reçut mal la plaisanterie. Il me répondit que la musique ne plaisait qu'à nos oreilles et qu'un livre, rappelez-vous que c'était la description de la peste, élevait le cœur. « Oh !» dit le gros oncle avec un ronflement. « Mon neveu est presque un Athénien, il mêle toujours l'utile au dulce. » Oh, Minerve, comme je riais dans ma manche. Pendant que j'étais là, on vint dire à notre petit sophiste que son affranchi le plus cher était mort de la fièvre. « Oh, inexorable mort » s'écria-t-il, « qu'on me donne mon Horace. Ce grand poète seul nous console merveilleusement de tels malheurs. Est-ce que ces hommes aiment, ô Claudius? À peine ont-ils des sens? Qu'il est rare qu'un Romain ait un cœur. Ce n'est qu'un mécanisme sans os et sans chair. » Quoique Claudius entendît avec un peu de contrariété ses remarques sur ses compatriotes, il feignit de sympathiser avec son ami, en partie à cause de sa nature de parasite, et en partie parce qu'il était de mode parmi les jeunes Romains dissolus d'affecter un certain mépris pour leur origine, qui en réalité les rendait si arrogants. Il était de mode d'imiter les Grecs et pourtant de rire d'une malencontreuse imitation. Tout en conversant, ils s'approchèrent d'une foule rassemblée autour d'un espace ouvert, carrefour formé par trois rues. À l'endroit où les portiques d'un temple élégant et léger jetaient une ombre propice, se tenait une jeune fille. Elle avait une corbeille de fleurs sur le bras droit et dans la main gauche un petit instrument de musique à trois cordes, au son duquel elle joignait les modulations d'un air étrange et à moitié barbare. À chaque temps d'arrêt de la musique, elle agitait gracieusement sa corbeille. Elle invitait les assistants à acheter ses fleurs, et plus d'un sesterce tombait dans la corbeille, soit pour rendre hommage à la musique, soit par compassion pour la chanteuse, car elle était aveugle. « Oh, c'est ma pauvre Thessalienne, » dit Glaucus en s'arrêtant. « Je ne l'ai pas vue depuis mon retour à Pompéi. » Au silence, sa voix est douce, écoutons-la. Chanson de la bouquetière aveugle. Achetez mes fleurs, je vous prie. La pauvre aveugle vient de loin. Mes fleurs, la famille chérie, dont la terre prend si grand soin. Mes fleurs belles comme leur mère. Je les ai prises sur son sein, car elles y dorment naguère, si pressant comme un jeunesse saint. Son haleine qu'on y respire les enivrait d'aimables sons, sa douce haleine qui soupire, ainsi que l'oiseau des chansons. Son pur baiser sur leurs lèvres demeure, et sur leurs joues retrouve ses pleurs. Elle pleure, oui, la tendre mère pleure, pour vous nourrir de sa rosée, ô fleurs. Ces larmes-là me sont jamais amères. En vous voyant embellir chaque jour, elle pleure comme les mères, pleure d'orgueil, pleure d'amour. Il est un monde plein de joie, un monde où brillent mille appâts, mais toujours dans sa sombre voix, la pauvre enfant traîne ses pas. Déjà comme un pâle fantôme, je me crois chez l'infernal dieu, j'erre dans son triste royaume. Mes fleurs me raniment un peu. Je veux, loin de l'ombre éternelle, aller où tout rit, où tout luit. Jeanne ouvre les yeux, j'étends les bras, j'appelle. Autour de moi, tout est silence et nuit. Achetez mes fleurs, douce chose, entendez-les crier merci. Elles ont leur langage aussi. Nous sommes les lys et les roses, fleurs du plaisir, non du souci. Fille aveugle, ta main nous cueille pour nous mettre en ton noir séjour. Ton souffle glacé nous effeuille, il nous faut la chaleur du jour. Passant, ne soyez pas rebelles, délivrez-nous, vous, notre espoir. Nous qui sommes fraîches et belles, nous voulons des yeux pour nous voir. Acheter. Oh, je veux prendre ce bouquet de violettes, douce Nydia, s'écria Glaucus, en fendant la foule et en jetant dans la corbeille une poignée de petites pièces. Ta voix est plus charmante que jamais. La jeune fille aveugle tressaillit aux accents de l'Athénien. Elle se rendit presque aussitôt maîtresse de ce premier mouvement. Mais une vive rougeur colora son cou, ses joues et ses tempes. Ben « Vous êtes donc de retour, » dit-elle à voix basse. Et elle se répéta elle-même, « Glaucus est de retour. »« Oui, mon enfant, je suis revenu à Pompéi que depuis quelques jours. Mon jardin réclame tes soins, comme d'habitude. J'espère que tu les visiteras demain. » Souviens-toi qu'aucune guirlande ne sera dressée chez moi si ce n'est de la main de la jolie Nydia. Nydia sourit joyeusement mais ne répondit pas. Et Glaucus, mettant sur son sein les violettes qu'il avait choisies, s'éloigna de la foule avec autant de gaieté que d'insouciance. Ah, si cette enfant est une de vos clientes, dit Claudius. Oui, ne chante-t-elle pas agréablement? Elle m'intéresse, la pauvre esclave. D'ailleurs, elle est du pays de la montagne de Dieu. L'Olympe a projeté son ombre sur son berceau. Elle était salienne. Ah, le pays des magiciennes. C'est vrai, oui, mais selon moi, toute femme est magicienne. Et par Vénus, l'air à Pompéi semble lui-même un filtre d'amour, tant chaque figure qui n'a pas de barbe a de charme pour mes yeux. Justement, j'aperçois une des belles de Pompéi, la fille du vieux Diomède, la riche Julia, s'écria Claudius, pendant qu'une jeune dame, la figure couverte d'un voile et accompagnée de deux suivantes, s'approchait d'eux en se dirigeant vers les bains. Belle Julia, nous te saluons, dit Claudius. Julie leva en partie son voile de façon à montrer avec coquetterie un beau profil romain, un grand œil noir plein d'éclat et une joue un peu brune, à laquelle l'art avait jeté une fine et douce couleur de rose. Glaucus est de retour, dit-elle en arrêtant son regard avec attention sur l'Athénien. Puis elle ajouta à demi-voix. A-t-il oublié ses amis de l'an dernier? Divine Julia, le Lété lui-même, bien qu'il disparaisse dans un endroit de la terre, se remontre sur un autre point. Jupiter ne nous permet l'oubli que pour un moment, mais Vénus, plus exigeante, ne nous accorde même pas ce moment-là. Locus ne manque jamais de belles paroles. Peuvent-elles manquer devant un objet si beau? Nous nous verrons tous les deux à la maison de campagne de mon père, continua Julia en se tournant vers Claudius. Nous marquerons le jour de notre visite d'une pierre blanche, répondit le joueur. Julia baissa son voile, mais lentement, en laissant se reposer son dernier regard sur l'Athénien avec une timidité affectée, une hardiesse réelle. Ce regard exprimait en même temps la tendresse et le reproche. Les amis suivirent leur chemin. Julia est assurément belle, dit Claugus. L'année dernière, vous auriez fait cet aveu avec plus de vivacité. J'en conviens, j'ai été ébloui au premier coup d'œil, et j'ai pris pour une pierre précieuse une imitation parfaitement réussie. Bah, répondit Claudius, toutes les femmes sont les mêmes au fond. Heureux celui qui épouse un beau visage et un large douaire, que peut-il désirer de plus? Glaucus soupira. Il se trouvait maintenant dans une rue moins fréquentée que les autres, à l'extrémité de laquelle il pouvait voir cette vaste mer toujours souriante, qui, sur ses côtes délicieuses, semble avoir renoncé à son privilège d'inspirer de la terreur, tant ont de douceur les vents qui courent sur sa surface, tant sont brillantes et variées les nuances qu'elle emprunte aux nuages de rose, tant les parfums que les brises de la terre apportent à ses profondeurs ont quelque chose de pénétrant et de suave. Vous n'avez aucune peine à croire que Vénus Aphrodite soit sortie d'une mer pareille, pour s'emparer de l'empire de la terre. Donc, ce n'est pas encore l'heure du bain, dit le grec, qui était un homme d'impulsion toute poétique. Éloignons-nous de la mer, ville tumultueuse, pour contempler à notre aise la mer, alors que le soleil de midi se plaît à sourire encore aux flots. Pompéi était la miniature de la civilisation de cette époque. Cette ville renfermait dans l'étroite enceinte de ses murs un échantillon de tout ce que le luxe peut inventer au profit de la richesse. Dans ses étroites mais élégantes boutiques, dans ses palais de petite dimension, dans ses bains, dans son forum, dans son théâtre, dans son cirque, dans l'énergie et la corruption, dans le raffinement et les vices de sa population, on voyait un modèle de tout l'Empire. C'était un jouet d'enfant, une lanterne magique, un microcosme où les dieux semblaient prendre plaisir à refléter la grande représentation de la terre et qu'ils s'amusèrent plus tard à soustraire au temps pour livrer à l'étonnement de la postérité cette maxime et cette moralité qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans une baie unie comme la glace, se pressaient les vaisseaux de commerce et les galères resplendissantes d'or que les citoyens riches entretenaient pour leur plaisir. Les bateaux de pêcheurs glissaient rapidement de côté et d'autre, et de loin on apercevait les hauts mâts de la flotte dont Pline avait le commandement. Sur la grève, un Sicilien aux gestes animés, aux traits mobiles, racontait à un groupe de pêcheurs et de paysans les récits étranges de marins naufragés et de dauphins sauveurs, comme on peut en entendre encore de nos jours sur le môle de Naples. Bien volontiers, répondit Claudius, d'ailleurs la baie est la partie la plus animée de la côte. Le grec, attirant son compagnon loin de la foule, dirigea ses pas vers un endroit solitaire du rivage, et les deux amis, assis sur un petit rocher qui surmontait des cailloux polis par la mer, aspirèrent la brise voluptueuse et rafraîchissante dont les pieds invisibles, en se jouant sur les flots, leur communiquaient un harmonieux murmure. Il y avait dans cette scène un charme qui invitait au repos et à la rêverie. Claudius, protégeant ses yeux contre les ardeurs du jour, calculait les gains de la semaine, et le grec, appuyé sur sa main et sans se défendre du soleil, divinité tutélaire de sa patrie, dont la pure lumière inspiratrice de la poésie, de la joie et de l'amour s'infiltrait dans ses veines, regardait avec ravissement la vaste étendue des eaux, en enviant peut-être chaque souffle qui prenait son vol vers les rivages de la Grèce. « Dis-moi, Claudius, s'écria le grec après un long silence, n'avez-vous jamais été amoureux ?»« Oui, très souvent. »« Celui qui a souvent aimé, répondit le grec, n'a jamais aimé. Il n'y a qu'un Eros, quoiqu'il y ait beaucoup de contrefaçons de ce dieu. » Oh, les contrefaçons ont bien après tout leur mérite de petits dieux, répliqua Claudius. Je l'accorde, répondit le grec. J'adore jusqu'à l'ombre de l'amour. Mais lui, je l'adore bien davantage. Êtes-vous donc sérieusement et véritablement amoureux? Éprouvez-vous ce sentiment que les poètes décrivent? Un sentiment qui nous fait négliger vos repas, fuir le théâtre et écrire des élégies? Je ne l'aurais jamais soupçonné. Vous savez bien dissimuler. Oh, je ne suis pas si avancé que cela, reprit Glaucus en souriant. Je dis plutôt avec Tibulle, celui qui prend l'amour pour guide et pour appui, marche tranquille et sûr, les dieux veillent sur lui. Non, en réalité, je ne suis pas amoureux, mais je le serais volontiers si j'avais l'occasion de voir l'objet que je désire. Eros voudrait bien allumer sa torche, mais les prêtres ne lui donnent pas d'huile. L'objet est aisé à deviner, n'est-ce pas la fille de Diomède? Oh, elle vous adore et n'affecte pas de le cacher. Par Hercule, je le dis de nouveau, elle est à la fois jeune et riche. Les jambages des portes de son époux seront attachés avec des cordons d'or. Non, non, je ne veux pas me vendre. La fille de Diomède est belle, je l'avoue. Et dans un temps, si elle n'avait pas été la petite fille d'un affranchi, j'aurais pu, mais non, non, elle porte toute sa beauté sur son visage. Ses manières n'ont rien d'une vierge et son esprit n'est cultivé que dans la science du plaisir. Oh, vous êtes un ingrat. Dites-moi alors quelle est la vierge fortunée. Écoutez donc, Claudius. Il y a quelques mois, je séjournais à Néapolis, une ville selon mon cœur, car elle conserve encore les mœurs et l'empreinte de son origine grecque, et elle mérite le nom de Parthénope par l'air délicieux qu'on y respire et par ses magnifiques rivages. Un soir, j'entrais dans le temple de Minerve pour offrir mes vœux à la déesse, moins pour moi-même que pour la cité à laquelle Pallas ne sourit plus. Le temple était vide et désert. Les souvenirs d'Athènes revenaient en foule et avec douceur à ma mémoire. M'imaginant être le seul encore dans le temple et absorbé par mon zèle religieux, je laissais échapper de mon cœur les sentiments qui le remplissaient et des larmes s'échappèrent de mes yeux en même temps que les paroles de mes lèvres. Un profond soupir interrompit ma prière. Je me retournai aussitôt et je vis derrière moi une femme. Elle avait relevé son voile et elle priait aussi. Nos yeux se rencontrèrent et il me sembla qu'un regard céleste s'élançait de ses astres brillants et pénétrait jusqu'au fond de mon cœur. Jamais, mon cher Claudius, je n'avais vu une figure de forme plus exquise. Une certaine mélancolie adoucissait et ennoblissait en même temps l'expression de ses traits. Ce je ne sais quoi qu'on ne peut décrire et qui vient de l'âme et que nos sculpteurs ont réservé pour idéaliser Psyché donnait à sa beauté un noble et divin attrait. Des pleurs tombaient de ses yeux. Je devinais sur le champ qu'elle était comme moi d'origine athénienne et que les vœux que j'avais faits pour Athènes avaient trouvé un écho dans son cœur. Je lui parlais d'une voix émue. « N'êtes-vous pas aussi athénienne ?» lui dis-je. « Ô Vierge charmante !» Aux accents de ma voix, elle rougit et ramena son voile sur son visage. Les cendres de mes aïeux, dit-elle, reposent sur les bords de l'Ilissos. Je suis né à Néapolis, mais ma famille est d'Athènes et mon âme est toute athénienne. Prions donc ensemble, repris-je. Et comme le prêtre survint dans ce moment, nous mêlâmes nos prières aux siennes, en restant assis l'un près de l'autre. Ensemble, nous touchâmes les genoux de la déesse. Ensemble, nous déposâmes nos guirlandes d'olivier sur l'autel. J'éprouvais une étrange émotion de tendresse sacrée et de confraternité. Tous deux étrangers, nés sur une terre lointaine et déchue, nous étions seuls dans ce temple dédié à une divinité de notre pays. N'était-il pas naturel que mon cœur s'élançât vers ma compatriote, car je pouvais l'appeler ainsi? Il me parut que je la connaissais depuis longtemps. On eût dit que ces simples rites, comme par miracle, serraient entre nous les liens de la sympathie et du temps. Nous quittâmes le temple en silence, et j'allais lui demander où elle demeurait et s'il me serait permis de la visiter, lorsqu'un jeune homme, dont les traits avaient quelque ressemblance avec les siens, et qui se tenait sur les degrés du temple, vint la prendre par la main. Elle se retourna et m'adressa un adieu. La foule nous sépara. Je ne la revis plus. En revenant chez moi, je trouvai des lettres qui m'obligeaient à partir pour Athènes, où des parents m'intentaient un procès au sujet de mon héritage. Le procès gagné, je m'empressai de retourner à Néapolis. Je fis des recherches dans toute la ville sans pouvoir découvrir aucune trace de ma compatriote. Et dans l'espérance de perdre, au milieu d'une vie joyeuse, le souvenir de cette brillante apparition, je me plongeais avidement dans les voluptés de Pompéi. Telle est mon histoire. Je n'aime pas, mais je me souviens et je regrette. Claudius se disposait à répondre lorsque des pas lents et graves se firent entendre et au bruit des cailloux remués par la grève, chacun des interlocuteurs se retourna et reconnut le nouvel arrivant. C'était un homme qui avait à peine atteint sa quarantaine d'années, de haute taille, peu chargé d'embonpoint, mais dont les membres étaient nerveux et saillants. Son teint sombre et basané révélait son origine orientale, et ses traits possédaient quelque chose de grec dans leur contour. Surtout le menton, les lèvres, le front, à l'exception du nez un peu prononcé et aquilin. Les os de son visage dur et fortement accusé le privaient de ces gracieuses et harmonieuses lignes qui, sur les physionomies grecques, conservent les apparences de la jeunesse jusque dans l'âge mûr. Ses yeux larges et noirs comme la plus sombre nuit brillaient d'un éclat qui n'avait rien de changeant ni d'incertain. Un calme profond, rêveur et à moitié mélancolique, semblait s'être fixé dans le regard imposant et majestueux. Sa démarche et son maintien avaient surtout de la gravité et de la mesure. Et quelque chose d'étranger dans la mode et dans les couleurs foncées de ses longs vêtements ajoutait à ce qu'il y avait de frappant dans son air plein de tranquillité dans sa vigoureuse organisation. Chacun des jeunes gens, en saluant le nouveau venu, fit machinalement et en se cachant de lui avec soin un léger geste ou signe avec les doigts. Car Arbacès, l'Égyptien, était censé avoir le don fatal du mauvais œil. « Il faut que le point de vue soit magnifique, » dit Arbacès, avec un froid mais courtois sourire. « Pour attirer le gai Claudius et Glaucus s'y admirer, loin des rues populaires de la cité. » « Mais la nature manque-t-elle donc de puissance à trait ?» demanda le grec. « Pour les gens dissipés, oui. »« Austère réponse, mais peu sage. Le plaisir aime les contrastes. C'est en sortant de la dissipation que la solitude nous plaît, et de la solitude il est doux de s'élancer vers la dissipation. »« Ainsi pensent les jeunes philosophes de l'Académie, » répliqua l'Égyptien. « Ils confondent la lassitude avec la méditation. » Et s'imaginent, parce qu'ils sont fatigués des autres, connaître le charme des heures solitaires. Mais ce n'est pas dans ces cœurs blasés que la nature peut éveiller l'enthousiasme qui seul dévoile les mystères de son inexprimable beauté. Elle vous demande non pas l'épuisement de la passion, mais cette ferveur unique pour laquelle vous ne cherchez en l'adorant qu'un temps de repos. Ô jeune Athénien! Lorsque la lune se révélait dans une vision lumineuse à Endymion, ce n'était pas après un jour passé dans les fiévreuses agitations des demeures humaines, mais sur les hautes montagnes et dans les vallons solitaires consacrés à la chasse. « Belle comparaison !» s'écria Glaucus. « Mais application injuste !»« Épuisement, mais ce mot est fait pour la vieillesse, non pour la jeunesse !» Quant à moi, je n'ai jamais connu un moment de satiété. L'Égyptien sourit encore, mais son sourire fut sec et glacé, et Claudius lui-même, qui ne se laissait pas entraîner par son imagination, ressentit une impression désagréable. L'Égyptien ne répondit pas néanmoins à l'exclamation passionnée de Glaucus, mais après un moment de silence, il dit d'une voix douce et mélancolique, « Après tout, oh, vous faites bien de profiter du temps pendant qu'il vous sourit. La rose se flétrit vite, le parfum s'évapore bientôt. Et d'ailleurs, ô Glaucus, à nous étrangers dans cette contrée, et loin des cendres de nos pères, que nous reste-t-il si ce n'est le plaisir ou le regret? L'un, le plaisir pour vous, l'autre, le regret pour moi. Et les yeux brillants du grec se remplirent soudain de larmes. Oh, ne parlez pas ainsi, Arbacès, s'écria-t-il. Ne parlez pas de vos ancêtres. Oublions qu'il y a eu d'autres villes libres que Rome. Et la gloire? Oh, nous voudrions vraiment évoquer son fantôme des champs de Marathon et des Thermopyles. Oh, ton cœur n'est pas d'accord avec tes paroles, dit l'Égyptien. Et dans la gaieté de la nuit que tu vas passer, tu te souviendras plus de l'Aénéa que de l'Aïs. Allez, voilà. Il dit, et s'enveloppant dans sa robe, s'il s'éloigna lentement. Oh, je respire plus à mon aise, reprit Claudius. À l'imitation des Égyptiens, nous introduisons quelquefois un squelette dans nos festins. En vérité, la présence d'un tel personnage, semblable à celle d'un spectre, suffirait pour faire aigrir la plus belle grappe du raisin de Falerne. « Mais, homme étrange, murmura Glaucus, d'un air pensif, quoiqu'il semble mort au plaisir et froid pour tous les objets de ce monde, ce n'est pas un bruit calomnieux. Sa maison, son cœur démente ses discours. Ah oui, on dit que sa sombre maison est vouée à d'autres orgies que celle d'Osiris. Il est riche aussi, assure-t-on. Ne pourrions-nous l'entraîner dans nos fêtes et lui faire connaître les charmes du dé, le plaisir des plaisirs? Fièvre d'espérance et de crainte, passion qui ne se lâche jamais, dont on ne peut exprimer les délices. Que tu es beau et terrible, ô jeu! Il est inspiré, vraiment inspiré, s'écria Glaucus en riant. L'oracle fait de Claudius un poète. Il n'y a plus de miracle possible après celui-là.